avez bien dormi. Et que vous êtes tout à fait frais pour faire un effort intellectuel pour entrer dans une chose très difficile. Faut bien se dire, c'est pas commun du tout de saisir ce que c'est que le mal. Parce que instinctivement, on se défend contre le mal. Donc on le rejette. Si on est suffisamment vigoureux. Tandis qu'ici, je ne dis pas qu'on doit le faire venir, mais on doit le regarder. Il faut essayer d'expérimenter d'abord, hein, puisque toute philosophie réalise par de l'expérience. Il ne s'agit pas d'avoir une idée du mal. Il n'y a pas d'idée du mal. Personne n'a une idée du mal. Alors quand on dit que Dieu n'en a pas, mais non plus. J'ai pas d'idée du mal. J'ai un jugement. Ça, on le verra. Mais c'est intéressant de bien saisir ça tout de suite. Le mal, il est multiple, il est divers, il n'a pas de figure.
Un peu le vertige.
l'angoisse. Je crois que le mal engendre l'angoisse. Il a le vertige. Et alors, il y a ces deux choix qui sont... Je les pose comme une question, parce que c'est intéressant de réfléchir là-dessus. On va comprendre un tout petit peu au terme qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est vrai que c'est les deux chemins d'existence extrêmes qui échappent, qui sont au-delà de mes définitions. Et c'est pour ça que quand la philosophie se ramène uniquement à la définition, c'est court. C'est court. Les choses les plus importantes, on ne les définit pas. La définition, c'est de l'ordre logique. Définissez l'homme animal raisonnable, ça vous avance beaucoup. Animal, vous comprenez très bien. Ça, c'est tout à fait raisonnable à certains moments. À certains moments. Cogito. C'est une définition. Les définitions ne sont pas philosophiques. Alors, évidemment, quand je dis ça, d'être philosophe serait furieux, et pourtant c'est pas philosophique. Une définition, c'est logique, et la logique n'est pas la philosophie. La logique est au service de la philosophie. Le vieil Aristote disait que c'est l'organon. L'organon, c'est-à-dire c'est un instrument. La logique est un instrument, un instrument au service de la pensée. Mais c'est pas la pensée. La logique. C'est la pensée, je pense quand même. Quand je fais une définition, mais c'est une pensée seconde. Et c'est le second jus du café. Donc il est moins bon. C'est quelque chose qui est second. C'est vrai. La logique, c'est toujours quelque chose de second. C'est jamais quelque chose de direct. C'est pour ça que c'est fatigant. Donc, la définition, c'est pas philosophique. Et c'est en ce sens-là, vous voyez, que l'intelligence va plus loin que la définition. Parce que quand on dit que l'individu est ineffable, c'est très très important, c'est-à-dire que la définition est ineffable. Parce qu'alors, vous pouvez toujours, quand on essaie de définir ce que vous êtes, vous pouvez dire, non, je ne suis pas ça. Je suis plus que ça. L'individu est ineffable, il échappe à toute emprise, à toute définition. Il est ineffable, il ne peut pas être défini. C'est vrai. L'individu. Comme tel, je peux définir ma nature, à peu près, nature humaine, animal raisonnable, mais mon individualité, ma personnalité, elle est au-dessus. La personne, l'individu, c'est ineffable, c'est quelque chose d'unique. Je peux essayer de les comprendre, je peux essayer de voir ce que ça existe, mais quelque chose qui échappe. Alors, il faut bien comprendre que, de fait, quand on essaie de saisir ce que c'est que le mal, ça nous échappe tout le temps. Ça, je crois qu'on doit en avoir l'expérience de ça. C'est pour ça que je vous donne exprès hier le mal dans des situations très très diverses. Alors, puisqu'il y a une question, je la regarde tout de suite. Le mal ne vient-il pas parfois de l'intelligence de l'homme qui simplifie trop vite, éliminant une part de la vérité, comme dans le péché originel? Mais comment ne pas simplifier sans pour autant se perdre dans la complexité? Oui, ce besoin de définir. Il y a des gens qui sont heureux que quand ils ont une définition. Si à la fin de la session, Vous n'avez pas une définition du mal. Je dirais, j'ai perdu mon temps. Et pourtant, je vous dis d'avance, vous ne définirez pas le mal. Je vous le dis d'avance. Et vous ne perdez pas de temps à essayer de comprendre ce qu'il est. Et parce que la logique, encore une fois, c'est un instrument. Ce qui a été terrible, et ça, il faut bien le comprendre, ce qui a été terrible, à partir de Occam, la métaphysique était confondue avec la logique. Et ça explique le drame de la théologie d'aujourd'hui. C'est vieux, vous savez, ça date du 14e siècle. Faut pas dire que c'est Vatican II. Pas du tout, c'est bien plus vieux. Vatican II a enlevé des guides. Et on voit que ça a éclaté dans tous les sens, ça prouve que c'était d'avant. C'est très curieux ça, et c'est très intéressant de voir que le jour où la pensée se ramène à la logique, je sais que des quantités de personnes, d'ecclésiastiques, de philosophes, même qui se disent philosophes, veulent tout ramener à la logique. Je crois que c'est oublier le réel. La logique, ça touche l'être de raison. Le mal n'existe pas en logique. C'est pour ça qu'on aime tellement la logique. Il n'y a pas de mal en logique. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Oui, on peut se tromper. Il n'y a pas de mal. Alors, dans la mesure où l'erreur est un mal, on peut dire que le mal existe en logique. Mais c'est pas très virulent. Les microbes sont déjà très, très civilisés. Très civilisés en logique. Puisque c'est l'homme, c'est le régime de l'homme. Il n'y a pas de mal en Dieu. Tiens, les deux extrêmes. La logique. Qui ne nous dit rien de Dieu, c'est Dieu. Alors, je reprends ici cette question. Le mal ne vient-il pas parfois là déjà? Oui, déjà ça. On est déjà plus loin comme question, c'est pour ça que je ne veux pas y répondre. C'est la question de savoir d'où vient le mal. On n'en est pas encore là. On est à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le mal. Première question. Si vous ne savez pas ce que c'est que le mal, vous ne savez pas d'où il vient. C'est une très grosse question. D'où vient le mal? D'abord, qu'est-ce que c'est que le mal? Donc, je laisse tomber ça. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Y a-t-il une voie négative et une voie positive pour l'intelligence? Ou une seule voie? Autre chose aussi. Alors ça, c'est une question très importante, une question de critique. C'est que l'intelligence affirme et nie. Elle fait les deux. Mais, comprenons bien, les deux sont toujours liés. Je ne peux pas uniquement affirmer. Je ne peux pas uniquement nier. Mais il y a des périodes chez le gosse qui sont des périodes affirmatives, comme disent les psychologues, et des périodes négatives. Et il n'y a pas que chez les gosses. Il y a des jours où on se réveille de mauvaise humeur. Aujourd'hui, on est de bonne humeur. Il y a du soleil. C'est merveilleux. Mais il y a des jours où on se réveille de mauvaise humeur. Alors tout est négatif. Tout est négatif. On jette tout. Il y a des jours, au contraire, de bonne humeur. On est capable d'assimiler. Alors positif. Les deux sont toujours liés. Et au fond, les méthodes, les voies, c'est de savoir si la négation est antérieure à l'affirmation ou si l'affirmation est antérieure. On y reviendra là-dessus. Je ne veux pas traiter ça maintenant. Alors, essayons, continuons l'effort d'hier de réflexion. Rêver petit à petit. Petit à petit, on arrivera au démalot de saint Thomas. Je ne fais pas tout de suite parce que vous n'y comprendriez rien du tout. Alors, on y arrivera, ne vous inquiétez pas. Je vais d'abord réfléchir un tout petit peu sur ce animal est anarchique. Puisque je vous ai posé, la question de savoir si un maxime est allé dans le mal. Le maxime est allé, y a-t-il dans le mal un premier? Ça, c'est une très belle question. Y a-t-il dans le mal un premier? Y a-t-il un mal absolu? Comme il y a un bien absolu. Si on est intelligent, alors vous l'êtes, vous êtes tous d'accord de dire qu'il y a un bien absolu. Et si je vous pose la question, y a-t-il un mal absolu? Vous commencez à hésiter. Parce qu'il y a du plus et du moins dans le mal. S'il y a du plus et du moins, il doit donc y avoir une mesure. Pourquoi vous dites l'orgueil est plus terrible que la gourmandise? C'est vrai. L'orgueil est plus terrible, l'orgueil est un mal. La gourmandise est un mal, surtout pour le voisin d'à côté. Et pourquoi vous dites ça? Si vous dites que l'orgueil est plus terrible que la gourmandise, ça prouve qu'il y a un ordre dans le mal. Vous dites, être aveugle, est-ce que c'est plus terrible que d'être sourd? Vous commencerez à discuter. Ne plus pouvoir parler, est-ce que c'est plus terrible que de ne plus voir? Avoir un bras en moins, est-ce que c'est plus terrible que d'avoir une jambe en moins? Pas être plus et le moins dans le mal. Alors, certains corps peuvent dire, oui, on peut vous enlever un rein, parce qu'il y en a un autre qui fonctionne. Alors, il y en a deux, donc la nature en a fait deux. Pour qu'il y en ait un au garage pendant que l'un fonctionne, comme pour le pneu, c'est très bien. Donc là, on peut en supprimer un. Mais quand il s'agit qu'il n'y en a qu'un, divisible, vous voyez, au fond, on fait une hiérarchie du plus et du moins dans le mal. Alors, ça prouve qu'un maxime est allé. Ou bien est-ce que le mal est vraiment anarchique? Étant donné que le mal, je n'arrive pas à le saisir. Alors, je vais reprendre avec vous l'analyse très simple d'un mal que nous connaissons tous, la souffrance, la tristesse. C'est plus psychologique, c'est vrai, c'est plus psychologique, mais on est familiarisé avec ça. Quand vous dites que vous souffrez, je souffre terriblement ce matin. Je souffre d'une douleur effrayante. J'ai mal à la tête. C'est ennuyeux parce que ça m'arrêtera, ça m'empêchera de penser. C'était mal aux pieds, ça ira un peu mieux. Mal à la tête, c'est difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous avez un mal? Vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec l'équilibre habituel. Je crois que ça, on sent ça tout de suite. La santé, c'est une harmonie, comme disaient les anciens, les humeurs. Devait être bien équilibré. Et on voit ça chez quelqu'un qui est en bonne santé. Ce qui est en bonne santé, il est euphorique, il est parfaitement épanoui. Dès qu'il est malade, il y a quelque chose qui blesse, qui arrête. Donc, la souffrance accompagne toujours une certaine blessure comme la douleur. La tristesse, c'est l'absence de celui qu'on aime. C'est pour ça qu'on est triste. On est triste parce que quelque chose qu'on voudrait présent n'est pas présent. La tristesse s'oppose à la joie. Tiens, tout de suite. Vous voyez que la souffrance s'oppose à une harmonie, à un équilibre, à un ordre. Il y a une blessure, il y a une violence. Un être qui souffre est toujours violenté. Tout, on est violenté par la souffrance. C'est quelque chose qui vient nous blesser. Il y a toujours une blessure. Quelquefois, on ne voit pas immédiatement. L'autre mal, l'erreur. Vous distinguez la vérité de l'erreur. Vous opposez l'erreur à la vérité, qui est le bien de l'intelligence. Et vous dites que l'erreur, je suis dans la confusion, je suis dans l'erreur. Et quelquefois, on est un peu dans la panique, parce qu'on s'y met, où est-ce qu'on va trouver la vérité? On est plongé dans l'erreur, comme c'est difficile de pouvoir discerner. Où est la vérité, où est l'erreur, c'est pas toujours commode. On sent très bien que l'erreur empêche d'être dans la vérité. Je crois qu'on peut assez facilement comprendre que le mal apparaît tout de suite comme un manque. C'est peut-être la première chose qu'on peut saisir du mal. Un manque du côté de l'intelligence. Je suis dans l'erreur. Il manque quelque chose. La vérité, au contraire, c'est la perfection. Une intelligence qui sait qu'elle est dans la vérité. Elle est euphorique. La découverte de la vérité vous rend joyeux. Il vous donne des ailes. Tout de suite. La vérité vous libérera, c'est ça que ça veut dire, ça vous met dans la joie. Tandis qu'au contraire, l'erreur, c'est du plomb dans les ailes. Vous n'arrivez plus. Vous êtes alourdi. Il y a quelque chose qui ne va plus. La souffrance, un manque d'euphorie, un manque d'harmonie. La tristesse, un manque. Oui, toujours, un manque de la présence de celui qu'on aime, de celle qu'on aime. C'est un manque. Je crois qu'on peut dire assez facilement, quand on réfléchit un tout petit peu sur le mal, que si le mal m'échappe tout le temps, c'est parce qu'il est un manque. Un manque, qu'est-ce que c'est qu'un manque? C'est un creux. C'est la définition du canon. C'est un trou. Et c'est vrai, il y a entouré un manque. Je ne saisis un manque que quand je vois qu'il est un manque de quelque chose. Le manque en lui-même. Je ne sais pas ce que c'est. C'est toujours relatif à autre chose. Ah, c'est très curieux, vous voyez. Le mal implique donc toujours une négation. C'est un manque. C'est une négation. Alors, c'est pour ça que vous n'avez pas d'idée du mal. Parce que c'est une négation. Donc, toujours le mal implique une négation. Parce que c'est un manque. Pas n'importe quelle négation. Est-ce que le mal, c'est la négation absolue? C'est pour m'approcher. Est-ce que le mal, c'est la négation absolue? Ne pas exister. Est-ce que vous pouvez dire que c'est un mal? Pas si commode que ça. Ne pas exister. Il y a des quantités de choses qui n'existent pas. Est-ce que c'est un mal? Ne pas exister, regarde tous les possibles qui pourraient exister. Mais est-ce que impossible semble ce qui est possible à exister. Est-ce qu'il réclame d'exister? Est-ce qu'il a un droit à exister? Ah, c'est curieux. Il devient un mal dans la mesure où il a un droit à exister. S'il a un droit à exister et qu'il n'existe pas, ça devient un mal. Mais s'il n'a aucun droit à exister, c'est pas un mal. Donc la négation pure et simple, le non-être, le rien, c'est pas un mal. Vous ne pouvez pas dire que le rien c'est un mal. On l'avait déjà touché au point de vue métaphysique hier, au point de vue philosophie première, on avait dit le non-être n'est pas un mal. C'est curieux ça. Le mal, ce n'est pas la négation pure. C'est une négation par rapport à quelque chose qui devrait posséder telle chose. Est-ce un mal pour l'homme? C'est l'exemple classique, on prend. Est-ce un mal pour l'homme de ne pas avoir d'aile? Un mal pour l'homme de pas savoir d'aile. Je dirais non. Parce que ce n'est pas dans sa nature d'avoir des ailes. Est-ce un mal pour l'homme de ne pas voir? Il est né aveugle. Ah oui. Parce qu'il devrait voir. Voyez donc que le mal n'est pas la négation absolue. La négation absolue, c'est le néant. Et dans le néant, il n'y a pas le mal. Ça, c'est très important, parce que ça montre justement que le mal n'est jamais un absolu. Et le mal ne peut pas être un absolu. Et qu'au niveau de l'être, qui est la négation de l'être, au niveau de l'être, la négation de l'être, qui est le rien, n'est pas un mal. Le mal apparaît toujours par rapport à une réalité existante, ou une réalité qui pourrait exister, et qui applique un certain ordre à l'existence.
Pas entièrement vrai.
On sent bien que c'est pas entièrement vrai quand je dis que le religieux c'est celui qui n'aura aucun mal parce qu'il est pauvre. Vous demandez si c'est tout à fait juste. Est-ce que c'est juste de supprimer le mal par la pauvreté?
Parce que tous les autres sont comme ça, c'est sûr. Il y a quelque chose de plus.
plus, c'est qu'on sent profondément que la nature humaine implique cette capacité de communiquer aux autres. Et que c'est un mal si on ne peut pas communiquer aux autres. Donc je crois qu'on peut facilement comprendre que le mal n'est pas un absolu. C'est déjà beaucoup ça. Le mal n'est pas un absolu. Le mal est toujours relatif à un sujet existant qui a des droits, qui a des déterminations. Et que le mal, d'une certaine manière, puisque c'est la négation, mais une négation pas absolue, me manifeste les droits ordinaires de l'individu. La négation manifeste. C'est l'intelligence qui nie. C'est l'intelligence qui met en lumière la privation. La privation, c'est rien. C'est l'intelligence. Ce fait, il lui manque quelque chose. Il lui manque le pouvoir de communiquer. Il lui manque un bras. C'est mon intelligence qui saisit ces manques, ces négations. Pourquoi ? Parce qu'elle se réfère à une nature, à un individu qui possède la nature humaine parfaitement. Je commence à découvrir ce qu'est l'intelligibilité du mal. C'est une privation. Or, la privation, c'est la négation de quelque chose qui m'est dû. C'est la privation de quelque chose qui m'est dû. C'est là où je parle de privation. Et la privation, donc, c'est toujours une certaine négation. La négation, c'est l'intelligence qui la fabrique. L'intelligence fait des négations. C'est un être de raison, comme on dit en philosophie. La négation est un être de raison. Mais il y a un fondement dans le réel. Et le fondement dans le réel fait que je dis que c'est une privation. Le mal, c'est donc une privation. Et tout, le mal implique une privation. Si c'est une privation, c'est donc en référence à un sujet existant. Et ce sujet existant implique une perfection, des qualités, un ordre, une harmonie. Et le mal vient supprimer cette harmonie, cet ordre, ces diverses qualités. Je vois donc que le mal n'est intelligible pour moi qu'à partir du bien. On va essayer de comprendre ça. Alors là, c'est un très grand pas. Une fois qu'on a compris ça, c'est énorme. Parce qu'alors, on commence vraiment à pouvoir saisir ce que c'est que le mal. Que le mal, c'est toujours une privation du bien. C'est toujours une privation du bien. Et qu'il n'y a de mal que dans la mesure où il y a privation du bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien ? Puisque le mal est en référence au bien, je ne peux pas saisir le mal, il m'échappe autrement, il est anarchique. Le mal en lui-même n'a pas d'intelligibilité propre. Il est toujours en référence à autre chose. Alors, je vais essayer donc de saisir ce que c'est que le bien pour saisir ce que c'est que le mal. Mais le philosophe est astucieux quand il est devant un problème difficile. Il le contourne. Ça, c'est la stratégie. Une stratégie pour bien saisir. Si je reste indéfiniment devant le mal, je n'avancerai pas. M'installe-le devant lequel je me casse la tête. Et si je veux saisir ce que c'est que le mal, non, j'arriverai pas. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de science du mal. Tout ça, c'est un problème très important. Parce que ça fait dégringoler pas mal de choses. Il n'y a pas de science du mal. Il n'y a qu'une science du bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de maladie qui se définisse par elle-même. Il y a la santé. Et vous voyez les manques de santé. Parce que si vous voulez définir la maladie par elle-même et non, vous n'arriverez jamais. Et quelquefois, on veut supprimer un mal en supprimant le sujet lui-même. On va tuer le cancer, on tuera l'individu en même temps. Tant mieux. Pourquoi ? Parce qu'on a pourchassé le mal, on a oublié que le mal n'est pas un absolu. Au bout d'un certain temps, quand on regarde que la maladie, oui, les spécialistes qui ne regardent que la maladie, mais au bout d'un certain temps, ils oublient l'homme. Et là, si on oublie l'homme, on chasse la maladie. Et on veut la chasser jusqu'au bout. Et quand la maladie est quelque chose de très profond, on tue ce qu'il y a de profond dans l'homme, tout simplement. Parce que on a oublié cette chose élémentaire, que le mal est relatif à un sujet. Et que le mal n'est pas absolu. Il est relatif à un sujet. Il est relatif au bien. Et que je ne peux pas comprendre le mal sans regarder le bien. Là, ça va très très loin. Et ça va être très intéressant une fois que je vais pouvoir chercher les causes du mal en comprenant que d'une certaine manière, je ne peux pas saisir les causes du mal. Je ne peux saisir que les causes du bien. Et dans la mesure où je comprends que le mal est en référence au bien, alors à ce moment-là, je contourne le problème. Alors, essayons de regarder ce que c'est que le bien. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de saisir ce que c'est que le bien. Et on verra à ce moment-là que l'être humain est un être tellement complexe qu'il y a des tas de possibilités de mal. C'est très curieux, ça. Si vraiment vous avez compris que le mal est en référence au bien, ça, je crois qu'on peut facilement le saisir. Hein. Il faut le saisir, il faut le comprendre. Si vous avez des objections, vous les noterez, puis on les reprendra ce soir. Hein. Parce que ça, il faut comprendre. Il faut saisir cela. La philosophie, c'est nous rendre intelligents. C'est pas avoir des solutions, mais c'est nous rendre intelligents. Donc c'est d'essayer de comprendre des problèmes que nous côtoyons tout le temps et de bien les saisir, de les saisir d'une façon qui soit nette, réaliste. Donc, le mal, c'est cette privation par rapport à un sujet. Privation par rapport à un sujet qui a des droits. D'où viennent ces droits, ce sujet? C'est que ce sujet est fait pour être pleinement épanoui. Il est fait pour être parfait. Alors, il est fait pour être bon. Et c'est par la bonté, par la perfection, que vous saisissez les droits d'un sujet. Le droit d'être intelligent, d'avoir une intelligence épanouie. Si je n'ai pas eu dans ma vie les possibilités d'épanouir mon intelligence, c'est un mal. Ça, c'est sûr. Et pendant longtemps, je souffrirai de cela. J'ai, de fait, étant donné ma nature humaine, la possibilité quand même d'avoir un certain épanouissement, une certaine santé. Je n'ai pas cette santé, c'est un mal. nous aider à mieux comprendre. Et ça va peut-être nous aider à comprendre qu'il y a des degrés dans le mal. Et que les degrés dans le mal ne font pas du tout appel à un mal absolu. Mais les degrés dans le mal font tout simplement appel au sujet qui supporte ce mal et qui est plus ou moins atteint par ce mal. Alors qu'est-ce que c'est que la perfection d'un être? Vous êtes parfait quand il ne vous manque rien. Ah tiens, voyez tout de suite. Alors voyez, c'est très curieux. Vous définissez la perfection par le mal, et vous définissez le mal par la perfection. Donc, chassé croisé, hein. Parce que c'est vrai, quand vous définissez qu'est-ce que c'est qu'un être parfait, il ne lui manque rien. Je suis euphorique, il ne me manque rien. Le mal, c'est ce qui vous manque. Et le parfait, c'est ce qui ne manque rien. Alors à ce moment-là, les deux se renvoient mutuellement. Il y a une autre définition du parfait. Le parfait, c'est celui qui est parfaitement épanoui dans sa nature. Là, vous ne faites plus appel au manque. Un être parfait, celui qui est parfaitement épanoui dans sa nature. Et c'est vrai que c'est ça, un être parfait. Il est parfaitement épanoui. Toutes les possibilités qu'il avait sont épanouies. Donc, il est parfait. La perfection est donc quelque chose qui va très complexe pour nous, parce que vous avez la perfection au niveau biologique, la santé, vous avez la perfection au niveau moral.
C'est complexe, la perfection. C'est pas commode de définir la perfection de l'homme.
très sec. Vous avez tous vu des mathématiciens hors ligne qui, au point de vue de l'intelligence, sont extraordinaires. Mais, on dit, au point de vue du cœur, c'est un peu sec. Et c'est vrai. Bien, vous voyez l'inverse. Des gens d'une générosité extraordinaire. Intelligents. Ils sont pas parfaits. Ils sont très très généreux. Au sein de la générosité. Envoyez-les au milieu des pauvres. Ils sont merveilleux. Au point de vue de l'intelligence, il manque quelque chose. Voyez des gens qui, au point de vue de la santé, ont une toute petite santé. Mais en même temps, une générosité très grande. Et des gens qui ont très bonne santé, sans générosité. L'équilibre, le manque et la perfection. On est tous faits comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que la bonté? La bonté, ce n'est pas encore la perfection. Or, le mal, c'est un manque. Et le mal s'oppose au bien. Il y a les deux dans le mal. Vous voyez, on commence à comprendre que c'est plus complexe qu'on avait dit au point de départ. Il y a un mal qui s'oppose à la perfection, un manque. Il y a un mal qui s'oppose à la bonté. C'est pas le même. Alors qu'est-ce que c'est que la bonté? Il y a des êtres très parfaits. On a tous rencontré dans sa vie des êtres très parfaits. On ne peut rien leur reprocher. On voudrait bien, mais on ne peut rien leur reprocher. Ils sont parfaits. Point de vue moral, la loi ambulante. Extraordinaire. Perfection. Point de vue psychologique, toujours de bonne humeur. Le baromètre reste fixe. Point de vue générosité, on peut tout leur demander. Mais ils ne sont pas bons. Oh, c'est curieux. La bonté, c'est autre chose que la vertu. La bonté, c'est cette capacité d'attirer. C'est cette capacité de susciter un amour.
Très bien.
y a deux petites pistes qu'on verra cet après-midi. Le mal est un manque de perfection, ça c'est sûr. Vous êtes aveugle. Vous n'avez qu'un bras. Vous n'avez plus de voix. C'est un mal. C'est un manque. Et puis le mal est une opposition vis-à-vis du bien. Le mal s'oppose au bien. Ah, c'est très curieux. Comment le mal s'oppose-t-il au bien? C'est une négation. La négation, c'est rien. Donc ça ne peut pas s'opposer. Quand vous parlez des forces du mal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus originaire. Quand vous parlez des forces du mal, vous parlez du mal qui s'oppose au bien. Ça, c'est très vrai. Le mal s'oppose au bien. De la perfection. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez, il y a